De retour cette saison, chaque deux semaines, les mardis après-midi, on va parler avec les gens du Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Et là, un sujet qui s'est imposé de lui-même, la rentrée scolaire. Ça a été le début des classes pour plusieurs. On estime à près de 990 000 élèves qui ont fait leur rentrée là, pour cette rentrée scolaire 2023 dans les écoles primaires et secondaires publiques de la province. On reçoit aujourd'hui Sophia Aïssaoui, qui est étudiante en droit au Centre de justice de proximité de l'Outaouais, qui va nous en dire un peu plus sur les droits et obligations des élèves, et également aussi sur des dispositions de la loi qui sont toujours utiles à connaître lorsqu'on a des enfants qui sont à l'école. Sophia, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Je l'ai un peu dit, là, on a parlé de droits et d'obligations des élèves. Est-ce que notre enfant, en tant qu'élève, a justement ces droits-là et des obligations précises?
Alors oui, outre les droits et obligations en tant que citoyen, vos enfants ont aussi des droits et obligations en tant qu'élève. Par exemple, la loi impose aux élèves une période de fréquentation obligatoire. Et ça implique que l'enfant est obligé d'être scolarisé et doit obligatoirement fréquenter l'école à compter de l'année scolaire où il atteint l'âge de 6 ans jusqu'à l'année scolaire où il atteint l'âge de 16 ans. Mmh. Si l'élève fait défaut à son devoir, donc s'il multiplie les absences ou s'il abandonne l'école avant la fin de l'année scolaire où il atteint ses 16 ans, le directeur d'école peut prendre des mesures en commençant par contacter ses parents dans un premier temps, puis ensuite signaler la situation au directeur de la protection de la jeunesse, donc à la DPJ. Mmh. D'un autre côté, en ce qui concerne les droits des élèves au Québec, l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire et secondaire sont gratuits pour tous les résidents de la province, jusqu'à l'âge de 18 ans. Néanmoins, il faut savoir que le droit à la gratuité n'est pas absolu, puis il a aussi ses limites.
Puis qu'est-ce qu'on entend là, par des limites au droit à la gratuité?
Dans le fond, le droit à la gratuité ne s'applique pas aux projets pédagogiques et aux activités scolaires qui se font dans un cadre particulier qui sort du cheminement scolaire normal,
okay.
Comme par exemple les sorties scolaires. Mm-hmm. Mais il se peut que l'école offre de couvrir les frais, mais selon la loi, tant que le projet ou l'activité en question ne fait pas obstacle au bon déroulement de la scolarité de l'enfant, l'école peut exiger des frais supplémentaires de la part des élèves qui souhaitent participer volontairement à ces activités-là.
Okay.
Donc, à partir du moment où l'école rend obligatoire une activité ou un projet en particulier et qu'elle n'offre aucune alternative, l'activité doit être gratuite, puis le matériel requis doit également être fourni gratuitement. Mm-hmm. Fait qu'à titre d'exemple, on peut penser aux ballons et autres articles d'éducation physique, mais aussi aux produits chimiques et instruments de laboratoire ou autres matériels scientifiques, ou encore à la peinture, l'argile et tous les autres articles, en fait, des cours d'art plastique, par exemple. Et même si tous ces articles sont fournis gratuitement, l'élève a quand même l'obligation d'en prendre soin, ce qui veut dire que s'il abîme du matériel, l'école peut exiger qu'il paye le matériel endommagé.
Si jamais notre enfant se blesse à l'école, c'est quoi les obligations légales de l'école et des employés de l'école?
Donc, lorsqu'un enfant est à l'école, selon la loi, ses éducateurs deviennent responsables de sa garde, de sa surveillance, puis aussi de son éducation. Qu'il s'agisse d'un enseignant, d'un surveillant de cours d'école ou encore d'un entraîneur sportif, à partir du moment où un parent confie son droit de contrôle et de surveillance de son enfant à quelqu'un d'autre, on dit qu'il y a délégation de l'autorité parentale de manière temporaire. Et c'est pour cette raison que dans certaines situations, un éducateur qui a la garde d'un enfant peut être tenu responsable pour les gestes de ce dernier en cas d'accident. Peu importe si le geste posé par l'enfant est fautif ou non. Cependant, pour que ce soit le cas, il faudrait justement prouver que la personne qui surveillait l'enfant au moment de l'accident avait commis une faute grave durant l'exercice de sa garde et de la surveillance.
OK. Maintenant, considérant que ces gardiens surveillants-là sont responsables de nos enfants, est-ce qu'ils ont aussi le droit de faire des fouilles, de fouiller leur sac, leur truc?
La réponse courte à cette question, c'est oui, étant donné que les professeurs, les gardiens ou même les directeurs d'école sont tous responsables de la sécurité des élèves, justement, et qu'ils doivent également d'assurer l'ordre et la discipline. Ils ont, entre autres, le droit de demander à un élève de vider ses poches ou encore de fouiller son casier, son pupitre ou encore son sac à dos.
Okay.
Donc, les élèves doivent s'attendre à un degré élevé de respect de leur vie privée à l'école, mais pas une liberté sans limite. Chaque école doit faire respecter la loi et les règlements de conduite prévus dans le règlement de l'école. Et par conséquent, les fouilles sont autorisées à condition d'être raisonnables. Mmh. Ça veut dire que dans un premier temps, la fouille ne peut pas être faite sans raison. Il faut qu'il y ait un doute à propos de la conduite de l'enfant, comme quoi il aurait transgressé une règle ou que la preuve de cette conduite, justement, se trouve à l'endroit qui serait sujet à la fouille.
OK.
Puis dans un second temps aussi, pour toujours avoir une fouille raisonnable, il faut que la fouille se fasse de manière respectueuse, puis de la manière aussi la moins envahissante possible, en limitant au maximum toute atteinte aux droits de l'enfant. Et cela implique le fait de le ridiculiser ou de le brutaliser devant ses camarades.
Puis si jamais notre enfant est victime d'une fouille qu'on qualifie d'abusive ou qu'il y a d'autres problèmes à l'école, comment est-ce qu'on fait pour porter plainte?
Fait qu'une nouvelle procédure de dépôt et de traitement des plaintes est entrée en vigueur le 28 août 2023 dernier. Dès lors, en cas d'insatisfaction à l'égard des services reçus de la part d'un établissement d'enseignement, qu'il soit public ou privé, existe maintenant un processus en plusieurs étapes à suivre pour faire acheminer une plainte.
Okay.
Fait que tout d'abord, la première étape, c'est qu'il faudra s'adresser directement par écrit à la personne concernée ou à son supérieur immédiat. La personne, à partir de là, aura 10 jours ouvrables pour répondre. Si la réponse ne nous satisfait pas ou encore si le problème persiste, on peut passer à la seconde étape en s'adressant, en adressant une plainte au responsable du traitement des plaintes au centre de service scolaire ou à la commission scolaire concernée.
Mmh.
Le délai de traitement dans ce cas-là pour la seconde étape va être de 15 jours ouvrables.
Okay.
Puis encore là, si on est toujours mécontent du traitement de notre plainte, on aura le droit de s'adresser au protecteur régional de l'élève qui devra par la suite transmettre ses recommandations.
Puis là, si finalement il s'agit de discrimination, d'intimidation, de violence à caractère sexuel, c'est quoi les mesures à prendre dans ces cas-là?
En juin 2012, l'Assemblée nationale a adopté une loi visant à prévenir et à combattre l'intimidation et la violence à l'école. Cette loi précise les devoirs et responsabilités des acteurs concernés et prévoit qu'une commission scolaire doit veiller à ce que chacune de ses écoles primaires et secondaires offre un milieu d'apprentissage sain et sécuritaire, de manière à ce que tous les élèves qui la fréquentent puissent y développer leur plein potentiel,
mmh.
à l'abri justement de toute forme d'intimidation et de violence. Fait que si l'école manque à son obligation, le processus de plainte est le même que celui auquel j'ai précédemment fait référence. Toutefois, s'il s'agit d'un acte de violence à caractère sexuel, toute personne peut signaler l'acte directement au protecteur de l'élève sans avoir à passer par les deux premières étapes du processus.
Okay.
Fait que le signalement, entre autres, peut être fait par un enseignant, un employé de l'établissement scolaire, l'élève concerné lui-même, un autre élève ou encore un parent. La plainte sera par la suite traitée en urgence par le protecteur régional de l'élève.
Voilà pour ces situations-là. Maintenant, est-ce que, là c'est un sujet sur toutes les lèvres, est-ce que l'école a le droit de confisquer le fameux téléphone cellulaire d'un élève?
Ben justement, pour savoir si la confiscation est légale, il faut d'abord consulter les règlements et le code de conduite de l'école. Si la confiscation du cellulaire est clairement prévue comme étant une sanction, alors la confiscation est légale.
Okay.
Et malgré le fait que dans la province, les cellulaires ne soient pas interdits à l'école, il se pourrait que le ministre de l'Éducation prenne une mesure interdisant leur utilisation en classe,
mm-hmm.
de manière uniforme dans les écoles publiques partout au Québec. Ainsi, il n'existe pas encore de disposition à ce propos, mais je vous invite quand même à garder un œil sur les directives à venir.
Mm-hmm.
Cependant, on rappelle aussi que même si l'utilisation est permise présentement dans les classes, les élèves doivent tout de même respecter le droit à la vie privée d'autrui. Qu'il s'agisse d'un camarade ou d'un professeur, il faut se souvenir que filmer ou enregistrer une personne à son insu peut constituer une atteinte à ses droits fondamentaux. Et plus particulièrement lorsque cela est fait de mauvaise foi, et dans le but justement de nuire à la personne ou à sa réputation.
Ouais, faut toujours faire attention à tout ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y en est du code de la route en zone scolaire? Ça aussi, ça a fait les manchettes là, dans les dernières semaines. Là. Qu'est-ce qu'il y en est des lois et des règlements applicables dans ce cas-là?
Ben, selon la loi, la limite de vitesse applicable en zone scolaire doit être à maximum 50 km/h. Cela veut dire que la municipalité peut limiter la vitesse à 30, 40 ou encore 20 km/h sur les routes à proximité d'établissements scolaires. C'est pourquoi il est nécessaire de faire attention aux panneaux de signalisation et plus particulièrement si on prend en considération le fait que depuis le 1er août 2019, les amendes en zone scolaire sont doublées durant la période scolaire. Puis dans le fond, c'est quoi la période scolaire? C'est une période qui s'étend du lundi au vendredi, de 7h du matin à 17h l'après-midi, et entre autres durant les mois de septembre à juin.
Mmh.
De plus, en présence de bus scolaire, vous avez l'obligation d'immobiliser votre véhicule à au moins 5 mètres d'un autobus scolaire ayant ses panneaux d'arrêt sortis. Qu'on soit derrière l'autobus ou en face, donc sur l'autre voie de circulation, le 5 mètres est applicable pour les deux véhicules.
Mm-hmm.
L'amende, justement, en cas d'infraction, va de 200 à 300 $ et il y a un retrait de 9 points d'inaptitude pour les automobilistes d'un côté, puis d'un autre côté, pour les cyclistes, l'amende est de 80 à 100 $
Plein de beaux rappels qu'on a eus aujourd'hui, Sophia. Si nos auditeurs ont des questions, s'ils veulent en savoir plus sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets, comment est-ce qu'on procède pour vous joindre?
Ben, ils peuvent toujours nous contacter au CJPO. Ils peuvent nous joindre soit par téléphone au 844-606-4600 ou au 819-600-4600. Ils peuvent aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et TikTok. Et je rappelle que le service est gratuit pour tous, peu importe vos revenus.
Sophia Issaoui du Centre de justice de proximité de l'Outaouais, un grand merci pour ces informations aujourd'hui, puis à bientôt.
Merci à toi, Sébastien. Au revoir.